franceinter.fr.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, autre sujet, la ménopause chez les orques. Voilà, une orque enregistrée par le bioacousticien Olivier Adam. Chez l'homme comme chez l'animal, eh bien la ménopause intervient quand la femme a épuisé son stock d'ovules. C'est mathématique, mais est-ce suffisant pour comprendre justement le timing de la ménopause? C'est la question posée par une équipe de chercheurs britanniques qui s'est intéressée aux orques. Dans la revue Current Biology, ils avancent que la femelle plus âgée peut aussi renoncer à se reproduire pour mieux assurer la survie du groupe. Bonjour Christophe Guinet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres. Vous êtes un spécialiste des orques. Qu'est-ce qui peut expliquer donc la ménopause chez ces mammifères?
Alors, il faut peut-être commencer par le début, c'est-à-dire déjà expliquer comment ces groupes d'orques sont organisés. En fait, ce sont des familles composées d'une matriarche et de sa descendance directe, ses filles, ses fils, ses petites filles et ses petits-fils. Or, ce qui a été montré, c'est qu'une femelle, une matriarche, lorsqu'elle se reproduit en même temps que l'une de ses filles, son succès reproducteur est en moyenne 1,7 fois plus faible que celui de sa fille. Et en plus, il faut savoir que de s'investir dans la reproduction, c'est coûteux parce que les besoins énergétiques augmentent d'une façon presque de 50%. Donc à un moment, du fait du plus faible succès reproducteur des femelles les plus âgées, on a intérêt à se désengager de la reproduction, donc à cesser la reproduction, pour finalement favoriser la reproduction de ses propres filles, mais surtout de ses propres fils. Parce qu'il faut savoir qu'une matriarche qui vit avec ses fils, elle va continuer à aider ses fils en capturant des proies qu'elle va partager avec ses fils. Et en partageant plus, ça lui permet d'avoir des fils de meilleure qualité qui sont plus à même de se reproduire avec des femelles qui appartiennent à d'autres groupes. Donc en fait, ça devient la meilleure stratégie pour favoriser la transmission de ces gènes, pas directement, mais par l'intermédiaire de ses descendants, filles et fils.
Donc elle va tirer aussi plus d'avantages de l'aide qu'elle apporte à sa famille qu'au fait de se reproduire.
Et exactement ça. Alors voilà, on peut se poser, mais quel est l'avantage par contre d'avoir une femelle qui va continuer à vivre dans un groupe social pendant 20-30 ans sans se reproduire? Et là, on pense que cet avantage, il est lié à plusieurs points. Déjà, c'est la mémoire du groupe. Cette femelle plus âgée, elle connaît les meilleurs sites de pêche, et ça peut être particulièrement intéressant lorsque les conditions environnementales deviennent compliquées, c'est-à-dire une année où il y a un peu moins de nourriture que d'habitude, de savoir que peut-être à cet endroit-là, on a plus de chances de trouver la nourriture, ça peut être avantageux. Par ailleurs, elle peut investir dans la formation de ses petits-enfants, c'est-à-dire dans l'entraînement à la chasse, et donc favoriser le transfert du savoir au sein du groupe.
Donc elle a un rôle fondamental dans la survie du groupe alors?
Tout à fait. Et en particulier, et ça a été montré très clairement, dans la survie de ses propres fils, parce que les travaux qui ont été conduits en Colombie-Britannique ont montré que quand la matriarche mourait, ses propres fils, qui ont à ce moment-là une trentaine d'années, leur probabilité de mourir augmente considérablement. Et ils meurent dans l'année ou les 2 ans qui suivent la mort de leur mère. Et l'explication la plus probable, c'est qu'en fait les sœurs en fait ne tolèrent pas leurs frères et donc vont les rejeter pour favoriser elles-mêmes leur propre descendance, c'est-à-dire leurs propres fils et leurs propres filles. Et donc leurs frères se retrouvant exclus, ils ne peuvent plus bénéficier du groupe pour pêcher, donc ils sont moins efficaces et donc ils vont rapidement dépérir.
Ça vit longtemps une orque, hein, Christophe Guinet, hein.
Alors, il y a une grosse différence entre les mâles et les femelles, puisque la femelle peut vivre en moyenne jusqu'à 60-70 ans, avec certains individus qui peuvent atteindre 90 ans, alors que les mâles, en moyenne, c'est entre 30 et 40 ans.
Mais donc, si elle vit plus longtemps, ça peut pas suffire comme explication de la ménopause, c'est-à-dire qu'elle peut passer l'âge de ne plus avoir ses règles. Pourquoi il faut trouver une autre explication que le fait d'avoir épuisé son stock d'ovules?
Oui, après, c'est qui de la poule ou de l'œuf a commencé, parce qu'en fait, on pourrait se poser la question, c'est pourquoi ne pas mourir tout de suite après avoir épuisé son stock d'ovules? Or, on l'observe pas. Et ça, c'est une situation plutôt exceptionnelle, parce que chez la plupart des mammifères, des espèces de mammifères, on meurt rapidement ou même avant d'avoir épuisé son stock d'ovules.
Philippe Renaud.
Oui, merci de ces explications passionnantes, parce que je ne connaissais pas les détails de la vie des orques. Il y a très peu de femelles qui ont, chez les mammifères, qui ont des ménopauses. Pendant très longtemps, on a dit qu'il y avait seule la femelle humaine. En fait, il y a peu, c'est dans des espèces, et vous le dites bien, où par exemple l'espérance de vie des femelles est beaucoup plus longue. On le voit quand, par exemple, dans la femelle humaine, les femmes ont à peu près la ménopause à l'âge de vie maximum des primates. C'est-à-dire que le stock ovulaire n'ayant pas changé, les femelles des mammifères en général sont toujours fécondes toute leur vie. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, ce sont des sociétés très évoluées, vous le rappeliez, il y a des hiérarchies, il y a des choses passionnantes. L'interprétation sociobiologique de la connaissance de sa reproduction,
je suis un petit peu réticent.
En tout cas, c'est vrai que ce sont des sociétés très évoluées d'abord, mais comment peut-on comprendre cette conscience de la reproduction?
Je sais pas si ça se pose en termes de conscience de la reproduction ou simplement d'un résultat évolutif qui fait que, bon, comme on le disait tout à l'heure, il y a une déconnexion entre le stock d'ovules et donc l'âge de dernière ovulation et l'âge de mort. Par contre, si ce trait a été sélectionné et maintenu au sein d'une population, c'est qu'il confère un avantage. Et donc, il confère un avantage, on le pense, plus en termes de justement de transfert des savoirs au sein de l'unité familiale. C'est-à-dire de maintenir finalement un individu qui pendant 30 ans va se nourrir mais pas se reproduire. Si c'était coûteux pour le groupe en termes d'énergie, ça serait pas sélectionné, entre guillemets. Oui, ce trait ne serait pas maintenu dans la population. Or, s'il est maintenu, c'est qu'il confère un avantage, et comme ça peut pas être un avantage en ligne directe, c'est-à-dire c'est pas cette femelle ne se reproduit plus, c'est qu'un avantage par ricochet, c'est-à-dire par l'avantage procuré à ses filles, et surtout, on pense à ses fils.
Merci. D'accord. Christophe Guinet pour votre éclairage, donc autour de la ménopause des orques, ça fera jaser dans les dîners en ville quand vous pourrez en parler ce soir, et c'est paru dans la revue Current Biology. Merci beaucoup à vous. Agnès, merci.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, encore une histoire de sexualité. Pas toujours besoin de mâles pour se reproduire, en tout cas chez le requin zébré. C'est le constat d'une équipe de biologistes de l'université du Queensland. Après 4 ans d'études, 4 ans après avoir été séparée de son compagnon, cette femelle requin a donné naissance à 3 bébés. Si les reproductions asexuelles ne sont pas nouvelles, ce n'est que la 3e fois au monde que des chercheurs l'observent chez une femelle qui a connu par le passé la reproduction sexuelle. Ce mécanisme permet de transmettre de femelle en femelle le matériel génétique de la mère jusqu'à ce qu'un mâle réapparaisse. Les e-déchets polluent l'Asie. Selon un rapport de l'Université des Nations Unies, le nombre de déchets d'origine électrique ou électronique a augmenté de 63% en Asie de l'Est et du Sud-Est entre 2010 et 2015, soit en tout 12,3 millions de tonnes de rebuts. Les disparités entre les pays sont très fortes. Les Hongkongais produisent en moyenne 20 fois plus d'e-déchets qu'un Cambodgien. Mais l'augmentation globale des revenus dans la région augmente la quantité de ces ordures. Et puis, combien pèse la Voie lactée? La dernière estimation fait état de 480 milliards de masses stellaires, ou 480 milliards de fois la masse du Soleil. En kilogrammes, ça donne 95 suivi de 40 zéros. Pour réaliser ce calcul, les astrophysiciens américains ont couplé une analyse statistique inédite avec des mesures de l'attraction gravitationnelle exercée par la Voie lactée sur les amas stellaires. L'avantage de cette nouvelle méthode est d'inclure les incertitudes de mesure au sein de l'analyse, ce qui ramène donc la marge d'erreur du résultat à moins de 20%.